Dans la prochaine heure, les amis, on aura le plaisir d'accueillir en studio Denis Gravel pour le Pit Stop. Plein de sujets à vous jaser encore une fois ce matin. Et Éric Duhaime va être en studio à 7h35, le chef du Parti conservateur du Québec. Ça brasse beaucoup là, entre Bruno Marchand et Éric Duhaime. On parlait aussi de la prorogation à l'Assemblée nationale. Du gouvernement. On va donner quelques semaines à Christine Fréchette et ou Bernard Drainville. Moi, je pense que c'est Christine Fréchette qui va être élue, là, la prochaine première ministre du Québec, soit dit en passant. Et on va lui donner deux semaines, trois semaines. Elle va pouvoir faire le tour des médias puis vendre un peu sa salade tout en faisant son nouveau cabinet des ministres. Tu t'attends-tu à des gros changements pour les choix des ministres qui resteront ou qui arriveront en place? Je pense pas.
Si c'est Christine Fréchette, il n'y aura pas de gros changements parce que la majorité des ministres l'appuient. Donc, moi, je pense qu'on fera pas nécessairement de gros changements. La donne qui va être intéressante à regarder, c'est ça va être quoi le rôle pour Simon Jolin Barrette? Que dit qu'il se représente aux prochaines élections? Donc, on va le mettre où? Parce que si on met une démotion parce qu'il a appuyé Bernard Drainville, ça pourrait être mal vu. C'est un bon leader parlementaire, il a depuis 7 ans. Fait que je dirais que c'est le dossier plus chaud pour Christine Fréchette.
Parce qu'il y a des postes qui ont été donnés, des postes de ministre qui ont été donnés par François Legault dans les derniers mois. C'était pour un gros merci pour service rendu.
C'est ça.
Ministre de la Santé, c'est ça. T'as un ministre aussi en Beauce qui a été élu ministre, qui militait pour la CAQ pendant des années et des années. C'était un lèche-vitrine de la CAQ, finalement. Il a été élu député, toujours été proche de François Legault. Il voulait absolument une job de ministre. Samuel Poulain.
Ouais.
Puis il l'a finalement obtenu, mais il n'y a pas le curriculum vitae pour être ministre.
Non, c'est ça.
Il n'y a pas le CV pour être ministre, mais on l'a mis ministre. Moi, si tu me posais la question, là, dans son cas, lui, il pourrait être remplacé assez facilement.
Samuel Poulain va être remplacé. Il a appuyé Bernard Drainville. Donc, Christine Fréchette le remettra pas là, justement, en raison de son CV. Que tu parlais de son manque d'expérience. François Bonnardel va venir au Conseil des ministres. C'est Christine Fréchette. Il a appuyé Christine Fréchette. Il a fait beaucoup de bruit, beaucoup de démarchage pour elle. Lionel Carman, la grosse rumeur, c'est que Lionel Carman terminerait sa carrière politique comme ministre de la Santé pour aller régler avec les médecins spécialistes.
Koskinen, vas-tu encore diriger le Québec comme il l'a fait pendant des années avec François Legault?
C'est Fréchette, oui.
Ouais.
C'est Fréchette, c'est la continuité de Legault.
Fait qu'on s'attend pas à un gros changement. Là. Toujours est-il que le gouvernement va être sur la glace pendant quelques jours jusqu'au 5 mai. Donc, il n'y a absolument rien qui se fera à l'Assemblée nationale. Puis, ça va être au bénéfice du nouveau chef ou de la nouvelle chef de la Coalition Avenir Québec qui va devenir premier ou première ministre du Québec.
Si jamais c'est Bernard Drainville, là, ça va brosser en crime.
Ouais.
Parce que lui, il l'a dit sur nos ondes. Je réduis ça à 20 ministres. Fait que là, ça veut dire qu'il y en a une qui sont au-dessus de 30 là, présentement. Là. Je me souviens plus le chiffre exact. Je pense que c'est 32. Qu'Antonine Iaccarini m'a dit. Fait que ça veut dire que c'est 12 personnes que Hawaii dehors. Puis il va en rentrer des nouveaux. T'as une Karianne Bourassa ici. Là,
Pourrais-tu créer une surprise, Bernard Drainville, avec le nouveau Bernard qu'on connaît?
Ben, faut pas oublier que c'est des votes de militants. Les jeunes caquistes se sont rangés derrière Bernard Drainville. Puis on pourrait poser la question tantôt à Étienne-Alexandre Beauregard, qui va faire partie justement de notre émission spéciale aussi avec moi, Antonine et Mathias. Lui est bien connecté dans la CAQ. Puis ce qu'on me rapporte, c'est que l'aile nationaliste de la CAQ, donc les caquistes plus à droite, sont en arrière de Bernard à 100%.
Okay. Puis ça représente quel pourcentage?
Je ne le sais pas. C'est pour ça qu'on pourrait poser la question à Étienne-Alexandre Beauregard. Il sait peut-être un petit peu plus que nous, vu qu'il a été à l'intérieur de la CAQ. Là.
Moi, je vais rapidement. Là. J'ai l'impression que dimanche, ça va être un 70-30. 70, Christine Fréchette, 30% Bernard.
Ah, vois-tu, moi, je le vois plus serré.
60-40.
60-40.
Ah, vois-tu, moi, je voyais un genre de 55-45.
Oh.
Ouais, je pense que Drainville va la chauffer plus que ce qu'on pense, comme Milliard avait chauffé plus Pablo Rodriguez qu'on pensait.
Mais ça, le vote des jeunes valait plus au PLQ.
Ça, c'est un bon point.
La façon de calculer était complètement différente, effectivement.
Ouais. Ben, c'est pour ça que je mets 10 d'écart. Milliard puis Rodriguez, sinon, ça avait fini à 4 d'écart. 52-48, ben mettons 53 et des poussières, 47 et quasiment 48.
C'est quand même capoté ce qui nous arrive. Là. La personne qui va être choisie chef de la Coalition Avenir Québec devient d'office premier ou première ministre du Québec.
Par 20 500 militants.
Puis au fédéral, tu as un Mark Carney qui va obtenir la majorité dans les prochains jours là, parce qu'on s'en va en partiel dans 3 comtés. Il y a une députée conservatrice qui a décidé de changer de côté de chambre, donc elle s'en va chez les libéraux. On est à un seul député de la majorité. Moi,
si tu me demandais, là, Yann, es-tu pour ça, les transfuges, la réponse, c'est non. Que ce soit au Parti conservateur du Québec ou que ce soit au Parti conservateur du Canada ou au Parti libéral du Québec, c'est non.
Moi aussi.
Surtout quand c'est pour donner une majorité au gouvernement.
Tellement.
Le Canada t'a dit, on te veut comme premier ministre du Canada, on veut ton parti qui va diriger le Canada, mais t'es minoritaire. Ben, tu dois l'être pendant 18 à 24 mois.
Ben oui.
Parce que c'est le peuple qui l'a décidé.
Ben, c'est ça, puis tu dois alors gagner ta majorité en ayant gouverné minoritaire, puis en te représentant devant le peuple.
Mais avec une députée qui a pas mal plus besoin de la politique que la politique a besoin d'elle, une députée qui a des idées complètement folles,
ben oui.
De l'avoir complètement changé de camp, je trouve ça aberrant. Puis en même temps, je me pose des questions sur Mark Carney. Tu sais. Mm-hmm. Il devait toujours bien connaître le curriculum vitae de cette dame-là.
Mais c'est clair.
Une dame qui était anti-avortement, une dame qui militait pour les thérapies de conversion pour les homosexuels. En 2025, mm-hmm. 2025, on est en 2026, là, mais elle militait pour les thérapies de conversion des homosexuels. Tu sais, on parle de quelqu'un avec des idées, je parle des idées, je parle pas de la personne, mais des idées complètement arriérées. Là.
Ben oui.
Puis au-delà d'être des idées arriérées, ce qui est débattable, il y en a qui peuvent dire que ces idées-là ont du bon sens. OK, mettons qu'on dit que ces idées-là ont du bon sens. Ils ont pas de bon sens dans les rangs libéraux.
Non.
Tu sais, il y a rien de libéral dans Mme Marilyn Gladue, là. Il y a rien. Fait qu'autant elle que Mark Carney, avez-vous des valeurs? C'est dur à comprendre.
Ouais. Mais pour elle, moi, ça me surprend pas. Je n'ai pas un gros estime des policiers et des politiciennes de ce genre-là. Là. C'est des opportunistes. Mais ce qui me surprend, c'est Mark Carney. Honnêtement, là. Tu regardes le CV, tu vois qu'il y a des partiels qui s'en viennent. Anyway, tu vas l'avoir, ta majorité, parce que dans deux comtés, c'est les libéraux qui passent en paix. Mm-hmm. Puis ils s'en vont chercher cette personne-là qui apportera probablement absolument rien au gouvernement. Là.
Non, exactement. Puis, c'est 19 800, 811 000 personnes qui ont voté aux dernières élections. Fait qu'on fait un pied de nez à ces tout près de 20 millions de Canadiens qui ont exercé leur droit de vote. Dûment, comme la démocratie là, le demande. Puis on leur dit, hey, vous autres, là, ça compte pas. C'est moi, ma petite affaire.
Ouais. Et puis, on devrait enlever ça, parce que les députés qui changent de camp peuvent avoir des avantages à changer de camp. Des promesses qu'on leur fait pour faire progresser leur carrière. « Ah, ben si tu es avec nous autres, on va laisser aller les choses. Dans quelques mois, on va te mettre ministre. » C'est le genre de choses qui m'écœurent, moi, de la politique.
Michael Ma, qui est allé au party de Noël là, des conservateurs, qui a pris des photos avec Pierre Poilievre.
Ouais.
Il était où, Michael Ma, quand Mark Carney est allé en Chine? Il était assis à côté de Mark.
C'est un délit de démocratie, mais en même
ben
temps.
Oui.
Je veux dire, on n'est pas dans un pays de cul, là. À un moment donné, je pense que les choses peuvent s'améliorer, puis on va regarder ça peut-être un peu de plus près. Mais c'est à l'avantage de qui d'empêcher des gens de changer de camp? Tu sais, les policiers accepteront jamais ça.
Ben non.
Ils veulent cette liberté-là de pouvoir négocier Exactement. Leurs affaires. Ils négocient même pour leur augmentation de salaire,
ben ouais.
pour dire à quel point ils peuvent négocier.
Mais tu sais, je reprends, toi, t'avais dit... je t'ai déjà entendu dire quelqu'un qui quitte avant la fin de son mandat, ça devrait être soit le deuxième qui prend la place, ou sinon, les élections partielles devraient être payées par le parti.
Payées par le parti qui n'est pas capable. À moins que ce soit pour des raisons de santé, bien entendu.
Exactement. Bien, ça devrait être la même chose. Je suis une transfuge ou je suis un transfuge. Parfait. Tu repars en élection, puis c'est payé par le parti qui veut t'accueillir.
Très bon point. J'embarque là-dedans.
Parce qu'elle passe pas, elle, là sûrement pas, là, dans Sarnia, là. C'est là comme conservatrice depuis 15 ans. Là. Le monde va lui dire, hey, penses-tu qu'on va te prendre sa couleur rouge?
Parfait. Le détroit d'Ormuz, qu'est-ce qui se passe? Il est-tu fermé? Il est-tu ouvert?
Il est ouvert,
mais fermé.
Mais sous surveillance, puis c'est pas n'importe qui peut passer tant que ça. Puis on se rend compte que c'est très variable, mettons. Hier, il a été ouvert. Il y a une couple de navires qui ont pu passer. Là, aux dernières nouvelles, à cause que Israël aurait continué ses attaques au Liban, l'Iran l'aurait refermé.
Ce quoi le plus cher qu'on peut payer à Québec pour ce qui est du litre d'essence? C'est 1,99$. On semble pas vouloir aller du côté du 2$, mais on est quand même à 1,99$. C'est dire à quel point ils sont capables de jouer avec les chiffres pour avoir quand même un certain marketing. Le prix le plus bas, c'est au Costco. Là, on est encore à 1,87$. Ça, c'est dans la grande région de Québec. Puis si vous allez à mon essencerie préférée à Saint-Lambert, là, c'est parmi les essenceries les plus basses. Vous êtes à 1,87$, donc à côté sur le prix du Costco actuellement. All right, les news.
Les actualités, Leclerc Communication.
7h12, Max, qu'est-ce qu'on a à savoir en ce 9 avril 2026?
Plus de 50 millions de dollars seront investis d'ici la fin de l'année 2029 pour remplacer les 160 suspentes du pont Pierre-Laporte. Radio-Canada rapporte que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a publié un appel d'offres cette semaine pour le remplacement des suspentes et pour la déshumidification des câbles porteurs et des chambres centrales. On précise que le calendrier détaillé des travaux n'a pas été inclus dans l'appel d'offres, mais on sait que l'entrepreneur retenu disposera d'à peu près 140 semaines. Il y a un document publié le 20 janvier par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada qui laisse croire que les travaux de remplacement des suspentes se dérouleront entre août 2026 et décembre 2029. Et pour ce qui est de l'installation des systèmes de déshumidification sur les câbles porteurs et dans les chambres centrales, ça devrait être terminé pour l'automne 2030. Rappelons qu'en juin 2022, l'émission Enquête de Radio-Canada avait révélé que l'état des 160 suspentes du pont Pierre-Laporte nécessitait leur remplacement. Trois bâtiments devront être démolis pour faire place à la construction de la station Diouville du tramway de Québec. On parle des 875, 879 rue Saint-Jean et du 880 rue Saint-Joachim, soit un ancien édifice du RTC. On précise que les travaux prévus présentent un niveau de complexité technique et opérationnelle important dans un secteur très achalandé et visible de la ville de Québec, devant être réalisés par des entrepreneurs spécialisés disposant d'une expérience démontrée dans des projets comparables. La station Diouville, qui sera l'une des deux souterraines du tramway, l'autre qui sera celle de la colline parlementaire. Et l'appel d'intérêt le fait mention, d'ailleurs, du potentiel archéologique important du site ciblé par les travaux. L'opposition officielle à la Ville de Québec rencontrait hier les représentants de CDPQ Infra à l'Hôtel de Ville pour obtenir des précisions sur le projet Tramcité, notamment en matière de financement, de gouvernance et de travaux préparatoires. Par communiqué, Respect citoyen mentionne que la rencontre a permis d'obtenir des réponses claires sur plusieurs éléments du projet. On dit CDPQ Infra confirme qu'elle agit comme maître d'œuvre alors que la responsabilité du financement relève du gouvernement du Québec. On indique aussi que CDPQ Infra précise qu'une participation financière de sa part a été évoquée dans une fourchette d'environ 20 à 30 % Cette participation-là qui s'inscrirait dans une logique d'investissement avec une attente de rendement autour de 10 % Des ajustements sont en cours avec Alstom afin de sécuriser le matériel roulant et d'éviter la répétition de problématiques observées ailleurs. C'est autre chose qu'on mentionne. L'opposition qui déplore toujours que des travaux préparatoires soient amorcés alors que des éléments déterminants restent à confirmer, notamment la contribution du fédéral et la validation du coût final du projet. Bruno Marchand s'est excusé hier aux alcooliques après une comparaison qu'il a qualifiée de pas parfaite, mais il refuse de s'excuser à Éric Duhaime. Mardi, le maire de Québec qui lançait « Monsieur Duhaime qui protège les arbres, c'est aussi crédible qu'un alcoolique qui dit qu'il boira plus, ça se peut pas ». Le chef du Parti conservateur du Québec qui s'est indigné, rappelant au passage que M. Marchand, c'est un ancien dirigeant de l'organisme Centraide. Mentionnant croire qu'on peut très bien sortir de l'alcoolisme, le maire n'a pas reculé sur l'essence de ses propos concernant M. Duhaime et les arbres. Les nombreux travaux en cours dans le Vieux-Québec mènent à un problème de stationnement dans le secteur. Un résident de la rue Hébert, Neil Williams, s'est adressé au maire Bruno Marchand via une lettre à ce sujet-là et il déplore n'avoir reçu qu'un accusé de réception, indiquant que les préoccupations ont été ajoutées à un dossier. En entrevue avec le journal, il déplore que personne pense à nous. Il dit « J'ai 10-15 voisins qui sont vraiment tannés. On a perdu 2-3 voisins dans la dernière année qui ont juste abandonné. » Des citoyens dénoncent que souvent, les chantiers sont annoncés, on bloque les cases de stationnement, mais après ça, ça prend un bout avant que les travaux commencent. La conseillère municipale du secteur, Mélissa Coulombe-Leduc, dit avoir été informée de la problématique, mais n'a pas donné de commentaires au journal. La communauté autochtone de Wendake réclame 5,2 millions de dollars au gouvernement du Québec et du Canada pour compenser le sous-financement chronique de son service de police. Le Journal de Québec rapporte une poursuite déposée en Cour supérieure qui vise à récupérer des déficits accumulés entre 1991 et 2022, totalisant plus de 5,3 millions. Wendake soutient que les deux paliers de gouvernement ont manqué à leurs obligations en matière de financement. Le service de police de Wendake, qui est composé d'une quinzaine d'agents, dessert une population d'au-dessus de 5 600 personnes. Ottawa, qui devrait assumer 52 % de la somme réclamée, ce serait 48 % pour Québec. La communauté dénonce aussi un refus de renégocier les ententes financières et réclame des dommages supplémentaires dont le montant reste à déterminer. Le manque de procureurs de la Couronne est criant au Québec, c'est ce que dénonce Maître Guillaume Michaud, président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Cité par le Journal de Québec, il lance que les procureurs sont à bout, ils tombent en maladie, vont pas bien, appellent l'association en pleurant. Et lui, ce qu'il dit, c'est qu'ils iront pas bien tant qu'on n'aura pas plus de ressources. Il y a un sondage interne qui a été commandé par l'association qui nous montre que 80 % des procureurs estiment que leur charge de travail est devenue trop lourde, que ça fait juste augmenter depuis 2 ans. Puis le résultat de ça, c'est que près de la moitié des procureurs de la Couronne ont déjà renoncé à porter des accusations criminelles ou ont abandonné des dossiers. Ce qui fait que de potentiels criminels s'en sauvent sans procès parce que les procureurs, entre guillemets, abandonnent. Et il y a 81 % des procureurs qui disent aussi avoir eu l'impression de devoir accepter ou négocier un règlement ou une peine plus clémente, toujours en raison du manque de ressources.
C'est quoi le salaire d'un procureur au Québec, Jeff?
Ça doit être 240 000, d'après moi, ça se peut-tu? 240
000, d'après moi, il n'y aurait pas de problème à se trouver des procureurs.
T'as raison.
Les chiffres que j'ai ici pour 2026, c'est 83 000 piastres.
Aïe, aïe, c'est donc bien peu.
Ben, c'est un salaire d'usine.
Ben non, ça n'a pas de sens.
Puis, on va se le dire, là, quand tu travailles en usine, tu travailles à la chaîne, une fois que ton corps de travail est terminé, là, tu penses plus à job.
Non,
procureur, là, je t'annonce que tu penses à la job tout le temps, 16 jours sur 7, puis tu fais pas 40 heures par semaine. Des fois, tu en fais 60, des fois, tu en fais 70.
83 000 piastres pour être procureur de la Couronne, mettre là, des criminels dangereux en prison.
Oui, puis ça peut aller jusqu'à 192 000 piastres.
Mais même là, je te disais 240, c'est passé pour moi.
Mais quand tu commences le salaire d'entrée, là, le traitement minimal, c'est 83 000 piastres. C'est un salaire d'usine.
Ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Puis, si tu es un bon avocat, c'est pas mal plus payant pour toi d'aller au criminel puis travailler pour la défense que de travailler pour la Couronne.
Fait que tu le fais par vertu, être procureur de la Couronne.
Oui.
Donc tu le fais pas pour le cash, là.
On devrait peut-être ajuster le salaire d'entrée pour intéresser des avocats à être procureur de la Couronne.
Oui. Je suis tellement d'accord avec toi.
Puis c'est qu'à la base aussi, il y a non seulement le salaire qui fait que peut-être qu'il y en... Mais on coupe. On en coupe des procureurs pour sauver de l'argent. Il y a ça aussi du côté du gouvernement du Québec, là. C'est que c'est un choix de ne pas en avoir plus.
Puis, tu sais, j'en parlais avec Maître Bellemare. C'est une grosse problématique, là. C'est les dates de disponibilité. Maître Bellemare, quand il y a une cause en Gaspésie, là, faut qu'il monte en char en Gaspésie, là. Fait que c'est un 6 à 8 heures pour aller plaider en Gaspésie.
Ouais.
Pour y aller, il faut qu'il revienne la même journée. Puis bien souvent, mais comme il a plaidé toute la journée, brûlé, faut qu'il se paye une chambre d'hôtel. Fait que ça se paye, ça, là.
Ben oui.
Sauf que pendant qu'il est en char, là, il travaille pas, il s'en va en char en Gaspésie. Pendant la pandémie, les juges acceptaient de plus en plus les causes ou virtuelles.
Ouais.
Ce qui facilitait la tâche de tout le monde.
Tout le monde.
Mais les juges, maintenant, préfèrent revenir à la méthode ancienne puis avoir une salle de cours, puis avoir, l'accusé,
ben oui.
Puis avoir la poursuite en phase 2.
Puis pour certaines causes, c'est absolument défendable, c'est normal, mais il me semble que pour certains cas, c'est correct en virtuel aussi.
Oui, mais il devrait y en avoir plus de virtuels.
Ben
on
oui.
Le fait déjà, là, des fois, les détenus sont au centre de détention de Québec, sont sur le virtuel, puis ils parlent avec un juge qui est directement au palais de justice. L'avocat de la Couronne est au palais de justice aussi. On est capable de le faire. Mais moi, là, ça ne change rien à ma vie que l'avocat de la Couronne soit chez lui ou à son bureau, que le détenu soit au centre de détention, puis que le juge soit chez eux.
Non, moi
la
non
job
plus.
Va se faire pareil.
Il y a juste, je vois comme ça, là, parce que j'essaye de baliser là, les procès devant jury, que là, il faudrait que ça se soit en personne.
Mais c'est ça, il y en a des cas où c'est sûr que c'est obligatoire. On va pas virer 100% virtuel, mais c'est sûr qu'il peut en avoir plus.
Tu sais, pour un petit vol de dépanneur, là.
Non, mais c'est
je
ça.
Je veux pas banaliser le vol de dépanneur.
Non, mais
là,
c'est ça,
même
je te dis.
Mais ça, je veux dire, ça vaut-tu vraiment la peine là, d'avoir...
Pour des crimes qui ne sont pas contre la personne, je pense que ça pourrait être au virtuel. J'essaie de trouver rapidement là, un encadrement.
Le juge n'est pas dans le trafic. L'avocat de la couronne n'est pas dans le trafic. Pendant ce temps-là, ils peuvent travailler et faire des causes.
Oui, exactement. Donc là, ça fait en sorte que, justement, on n'est pas obligé de négocier des peines bonbons, mais ça va être des vraies peines qui vont être données.
C'est exactement. Puis, tu sais, tu sauves un déplacement du détenu qui est au centre de détention. Tu sauves le déplacement.
Ouais.
Peut-être un peu moins de gens qui vont être sur la route pour déplacer des détenus, puis ils vont être un peu plus dans le centre de détention direct. Malgré que je pense que c'est pas le même département, là, mais tu pourrais peut-être couper dans ce département-là si tu n'as pas personne à transporter.
Oui, puis ils mettent un peu plus de procureurs.
Oui, exact. Mais le salaire d'entrée...
Hey, 83 000, j'en reviens pas.
Pour les procureurs, c'est 83 000
Puis imagine... piastres.
Puis ta job finit jamais. C'est du 16 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Puis les études que tu t'es claqué pour 83 000 piastres, ça vaut pas la peine pantoute, là.
Exact.
Dans le Point de Max, Kat Bachand et moi, on va parler à Maître Guillaume Michaud, qui est président de l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Fait qu'on pourra y soumettre ces idées-là, puis voir ce qu'il en pense. Je termine avec ça le premier ministre du Canada, Mark Carney, qui s'est entretenu hier soir avec l'astronaute Jeremy Hansen et les trois autres là, qui se trouvent dans la navette de la mission Artemis 2, qui est sur son retour vers la Terre actuellement. Là, si mes calculs sont bons, ça devrait arriver demain ou au plus tard samedi, là, en passant. M. Carney qui a souligné donc que de voir un Canadien participer à une telle mission, ben, ça représentait une source de grande fierté nationale, en plus d'être un rappel éloquent de la contribution du Canada aux efforts internationaux dans le domaine de l'exploration spatiale. Le premier ministre qui a aussi parlé de l'importance de la contribution du Canada dans le domaine de l'exploration spatiale habitée, en réaffirmant l'engagement du pays concernant la science, de l'innovation et de la collaboration internationale. Pour M. Carney, l'exploration spatiale vient piquer l'intérêt des jeunes et des événements comme celui-ci les encourage à se tourner vers la science et la technologie et à se voir faire partie de la prochaine génération chargée de façonner l'avenir.
On a pris les meilleurs éléments disponibles dimanche. On va élire le prochain ou la prochaine première ministre du Québec parce que c'est la course à la chefferie de la Coalition Avenir Québec qui prend fin ce dimanche et les membres votent tout au long de la semaine et c'est jusqu'à dimanche 15h les votes.
Oui, exactement. Puis normalement, ce qu'on m'a dit du côté du clan Drainville hier, c'est qu'on devrait avoir les résultats aux alentours de 16h-16h15.
Donc l'émission spéciale ici avec toi, Antonine Iacarini puis Mathias Turcotte commence à partir de quelle heure?
Débute à 15h après le boulevard du Rock. Donc on remplace les colosses du Rock par l'émission spéciale. L'actualité ne prend pas congé. Alors, à partir de 15h, analyse. On va avoir plusieurs personnes qui vont venir analyser le tout avec nous, notamment Étienne-Alexandre Beauregard, qu'on va avoir tout à l'heure, qui a déjà rédigé les discours de François Legault, Alicia Despins, Victor Henriques. Puis, à partir du résultat, bien là, Mathias Turcotte est sur le terrain. On fait une tonne d'entrevues avec les gens de la CAQ. Il y a Charles Milliard, Sol Zanetti et Éric Duhaime également qui ont confirmé leur participation pour commenter le choix des militants de la CAQ.
All right. Good job. 7h24. Merci. Les sports. Gros match canadien ce soir contre le Lightning de Tampa Bay à 19h. Quel joueur qu'on doit surveiller du côté du Lightning de Tampa Bay?
Il y en a plein. Nikita Kucherov.
Un des meilleurs, mais en fait, si ce n'est le meilleur joueur de la Ligue nationale actuellement.
T'es tellement talentueux.
Connor McDavid est pas loin.
Ouais. Il y a Jake Guentzel qui est au-dessus de 30 buts, si je ne me trompe pas. Ouais, Braden Point.
Braden Point a une saison décevante. Ouais, je checkais les stats justement du Lightning tantôt. Là. Braden Point, moi qui est un de mes joueurs préférés de la LNH depuis des années, 48 points en 60 matchs pour Braden Point. C'est vraiment pas beaucoup. Puis pourtant. Braden Point joue sur le premier trio avec Guentzel puis Kucherov. C'est dur à comprendre. Pas le choix de parler de Darren Radish.
Okay? Hey, oui.
L'histoire de ce gars-là n'a aucun bon sens. Défenseur de 30 ans, lui, il a 3 ans. C'est un gars de Ligue américaine à 26-27 ans. L'année passée, 37 points en 73 games, fait correct avec le Lightning. Cette année, Darren Radish... 69 points en 71 matchs. Ça n'a aucun foutu bon sens. Le
21
gars
buts.
A 21 buts. Il y a un ou deux tours de chapeau dans la saison, si je ne m'abuse. L'histoire de Darren... Tu sais, on parlait de gars tantôt en début de show, des gars pas repêchés. L'histoire de Radish, non seulement il n'est pas repêché, il est arrivé à 27 ans. Là. C'est vraiment particulier.
C'est
comme...
encore possible pour Arber Jacky de s'améliorer, Max.
Il va toujours venir à Jack High.
Je sais
pas. On peut-tu parler de sport, Max?
Je sais même pas quoi te dire.
Non, mais comment t'expliques ça qu'un gars qui a évolué pendant plusieurs années dans la Ligue américaine, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ans dans la Ligue américaine, devienne une superstar dans la Ligue nationale de hockey?
Ce cas-là s'explique même pas. Même dans la Ligue américaine, c'est un gars qui te faisait à peu près en moyenne un point aux deux matchs jusqu'à sa dernière saison où là, il a fait un point par match.
C'est complètement
mais
fou.
Mais même dans la Ligue américaine, c'était pas un défenseur offensif. Puis là, cette année, ben il a profité notamment de la saison difficile de Victor Hedman quand il était là, parce que plus souvent qu'autrement, Victor Hedman, cette année, il est pas là. C'est vraiment un cas inexplicable.
C'est le meilleur buteur du Lightning de Tampa Bay en avantage numérique. Il a 10 buts. C'est lui qui a le plus de buts en avantage numérique dans toute l'équipe. Hey, Kucherov, Eagle, Kendall, Point.
Ah, il n'y a rien d'explicable dans le cas de Darren Radish.
Ça va ressembler à quoi le match de ce soir? Le Canadien va devoir s'ajuster pour jouer contre cette formation-là.
Ah, sinon, tu manges une reine. Si tu sors comme tu as sorti tes deux dernières games, là,
c'est fini, c'est terminé.
C'est 8-1 Lightning à soir. Là.
Ça va être physique en tabarouette. Ça, y a pas de doute. Ça va brasser. Ça a brassé il y a une semaine à Tampa Bay. C'est un match pour la première place de la division. Fait que nécessairement, ils vont avoir de l'émotion, ils vont avoir de l'intensité. Moi, je m'attends à avoir plus de mises en échec qu'habituellement dans un match de saison régulière. Ça va être vraiment un match de série ce soir.
Ça a-tu été accepté, le nouvel équipement de Kirby Dack, le papier bulle qu'on va mettre au
bout? J'y souhaite, parce que ça va frapper à soi.
Comment tu peux être un armoire à glace bâti comme Kirby Dack et être aussi fragile?
Mais là, il a reçu un bâton dans la face la dernière fois. Peux-tu y laisser un break?
Non, mais je veux dire, il n'a jamais joué une saison complète dans la Ligue nationale.
Oui, en général, oui, mais là, pour le bâton dans la face l'autre fois.
McDavid, là, on s'entend-tu, c'est le joueur le plus rapide de la Ligue nationale de hockey. Oui. Tout le monde veut le ramasser dans le coin de bande. Il y a 79 matchs de jouer cette année.
Ouais, ben, on va juste prendre dans le Canadien. Nick Suzuki n'a jamais raté un match en carrière.
Lennon en a-tu raté?
Je pense qu'il en a raté un ou deux cette année.
On s'entend, Nick Suzuki joue 22 minutes par match. Là. Donc, il n'est pas sous-utilisé. Là. Bloc des tirs en désavantage numérique.
Mais
c'est-tu
le positionnement, la façon dont les gars se positionnent?
Parce que oui,
se mettent un peu plus en danger.
Quand est-ce que tu vois Nick Suzuki se faire frapper solidement? Jamais.
C'est rare.
C'est très rare.
Ben, je pense qu'il y a, oui, l'intelligence sur la patinoire, le fait que je positionne toujours mon corps pour ne pas recevoir le gros coup. Puis on peut pas reprocher à Suzuki de pas être impliqué dans le jeu. Là. Il est en nomination pour le trophée Frank Selke, meilleur avant défensif.
Puis qu'est-ce qu'on voit en Kirby Dack que le spectateur ordinaire comme moi voit pas?
Ah, mais attends, quand il a joué cette année, il était bon. Là. Ça, on peut pas remettre cette année la qualité de hockey de Kirby Dack en question, j'ai l'impression.
Sa vitesse, Max? Ben, c'est son meilleur atout?
Mais le pire, c'est que moi, ce que j'aimais, puis ça, c'était avant sa dernière blessure, parce qu'en début de saison, c'était plus lent. T'sais, il revenait d'une saison encore où il avait été blessé l'année passée. Mais avant sa dernière blessure, il commençait à bien utiliser son physique. Là. Puis il avait scoré des gros buts. Ça reste un gros bonhomme de 6 et 4 qui peut jouer au centre. C'est sûr que juste là, avec sa shape, il y a un atout. Mais je trouvais qu'il utilisait bien son gabarit puis qu'il était en train de devenir quelque chose qui avait de l'allure. Là, il s'est blessé puis on espère qu'il puisse redevenir ça puis aider le Canadien en série. Là. Mais tu sais, c'est un gars qui n'a pas été repêché 3e au total pour rien. Là. Des habiletés, il y en a. Les blessures l'ont empêché de développer ces habiletés-là autant qu'on l'aurait voulu. Mais le potentiel est encore là pour qu'il devienne, mettons, un bon, même un très bon joueur de 3e trio, mettons.
Je regarde le repêchage de 2019, là. Année où Kirby Dack a été repêché 3e. Le premier choix, c'était Jack Hughes.
Ouais.
Capo Caco.
Hey, ça, c'est un flop aussi, Capo Caco.
Deuxième choix, Kirby Dack 3e. Bowen Byram, Alex Turcotte.
C'est un méchant flop, ça.
Position numéro 6, Moritz Seider.
Ouais, lui,
on l'aurait
bon.
Bien pris chez le Canadien, lui.
Oh, oui.
Très bon comme défenseur avec les Wings.
Mais cette année-là, Montréal repêchait 15e et un certain Cole Caulfield a glissé parce qu'il était trop petit. Moi, au 15e rang, je disais...
Alex Newhook en 16e position.
Ben, c'est ça. Moi, je disais, je veux Caulfield ou Newhook au 15e rang. Fait que là, on est rendu avec les deux. Fait que je suis pas content.
OK. Mais admettons que c'était à refaire, là.
Ben, je prendrais Caulfield.
Mais
c'est
juste
Caulfield
avant New York,
je vais juste te dire que
bon
des
choix.
Fois, ça peut m'arriver de décider. Ben, je me suis pas trompé dans le sens où je disais je veux Caulfield ou New York. Fait que.
Max, ça trompe jamais.
Jamais.
C'est bien rare.
Jamais.
C'est soit que c'est une vérité ou soit qu'il y a un petit peu d'ajustement.
Ouais, c'est ça.
Mais jamais s'est trompé.
Ben, c'est comme l'année de Kotkaniemi. Je voulais Brady Tkachuk ou Quinn Hughes. Fait que. Ouais, il y en a beaucoup qui voulaient Philippe Zadina. Eux, ce sont. Tu sais, aujourd'hui, Zadina ou Kotkaniemi, ça n'aurait pas fait de grande différence. Non. Moi, j'aurais pas de trouble encore avec un Tkachuk ou un Quinn Hughes.
Brady Tkachuk, là.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'un ou l'autre.
Bon, oui.
Qui est dans le but ce soir, du côté du Canadien?
On le saura pas parce que. Puis, ose pas demander à Martin Saint-Louis parce qu'il va t'envoyer promener. On est en série, on ne dévoile plus les alignements.
Ça a-tu un impact, ça, l'humeur de Martin Saint-Louis sur les questions des journalistes, Jeff?
Dans le sens?
Ben, dans le sens où, à chaque fois qu'il pose. À chaque fois que tu poses une question, Martin Saint-Louis, tout dépendant de comment il fait, ou s'il fait soleil dehors ou pas, il va te répondre ou il va te dire que ta question, c'est une des questions les plus idiotes qu'il a entendues dans l'histoire de l'humanité.
Je te dirais que Martin Saint-Louis est quand même bien protégé par les journalistes parce que n'importe quel autre entraîneur qui fait ça, les journalistes l'auraient bâché.
Te faire écœurer par un gars qui mesure 5 et 6.
Ouais, mais j'oserais dire que ça va être Dobbèche. C'est un match important comme ce soir. Tu mets ton numéro 1.
C'est 6 derniers départs, c'est 948 d'efficacité.
Incroyable.
1,77 de moyenne.
C'est le gardien d'honneur dans
fou.
La Ligue nationale de hockey. Puis je ne sais pas si c'était un trip de journaliste, là, mais on nous dit que dans les écoles de gardiens, le style de Dobbèche commence à être enseigné. Salutations à Montembeau, qui ne doit pas passer les plus beaux jours de sa vie.
Ça a l'air qu'il reste super professionnel, puis qu'il n'est pas une distraction, puis fait que bravo à lui pour
mais
ça.
T'as-tu mais t'as-tu vu le montant d'argent qui est sa galerie en haut?
Ouais, mais c'est sûr qu'il...
Patrick Laine gagne quoi? 8 points quelques millions de dollars par année?
Ouais.
Montembeau est à 3 points quelques?
Non, c'est sûr.
Il y en a d'autres aussi qui sont blessés, là, qui ne jouent pas, qui commandent quand même des gros salaires. Fait qu'à 3,5, là, tu t'assieds sur ta chaise puis t'attends que le temps passe.
Mais,
mais
mentalement,
c'est un compétitif.
C'est sûr,
là, mentalement, ça doit être effectivement très tough. 418-971-1021, si vous avez des choses à nous dire, s'il se passe quoi que ce soit sur la route. Après la pause, on reçoit le chef du Parti conservateur du Québec. On parlait de sa chicane là, avec Bruno Marchand. Éric Duhaime, qui a fait beaucoup jaser de lui ces temps-ci. On parlait aussi de la prorogation jusqu'au 5 mai du gouvernement. Donc, pour donner une chance au nouveau chef ou à la nouvelle chef de la Coalition Avenir Québec qui deviendra premier ou première ministre du Québec, ben on a décidé de proroguer le gouvernement jusqu'au 5 mai. Puis Bernard Drinville, as-tu des possibilités qu'il se ramasse au PCQ? C'est la rumeur.
On entend ça partout, là.
À l'Assemblée nationale depuis plusieurs jours. Donc, Éric Duhaime sera avec nous.
C'est vraiment pas si mal sur les routes ce matin. Un peu d'attente pour la Porte-Nord. Petit ralentissement sur 40 Est entre Duplessis et Henri IV. Henri IV Sud entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Le ralentissement habituel. Capitale-Ouest, c'est vraiment moins pire qu'à l'habitude, mais quand même par bout, notamment à hauteur Henri Bourassa, c'est au rouge. Laurentienne-Sud, dans le coin de la capitale, petit ralentissement. Robert-Bourassa-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf. Et toujours, puis ça, c'est le gros point chaud là, depuis une couple de jours, là. Quand tu roules vers Shannon, c'est très compliqué.
Pour nous informer de ce qui se passe,